Jeudi 27 mars 2024, à la salle communautaire de l'ESCDD, était lancée la campagne de 45 capsules sur les réseaux sociaux, intitulée JPP. Ce projet a été financé par la CAF et la Drôme, le département et la MSA.
Quand les parents viennent déposer qu'ils sont en difficulté avec leur enfant, on peut les accompagner. Les enfants tout petits, souvent entre 1 et 3 mois, la plupart ont des crises de pleurs dont on ne connaît pas trop l'origine. Et les parents vont changer l'enfant, lui donner à manger, le bercer. Mais parfois, il n'y a rien qui fonctionne. Et ça peut vraiment être très inquiétant pour des parents qui vont croire que leur enfant a vraiment un problème. Je fais un examen clinique pour m'assurer que l'enfant va bien au niveau de sa santé. Et on explique aux parents que c'est un phénomène très fréquent chez les nourrissons. Et on peut essayer de leur donner des petites astuces, des petites techniques pour apaiser leur enfant plus facilement. On les alerte aussi sur le risque du bébé secoué. C'est vrai que certains parents, quand ils sont dépassés par les cris de leur enfant et fatigués, ils peuvent avoir un mauvais geste et secouer leur enfant et on les prévient que c'est vraiment quelque chose à pas faire. Quand on est un parent, c'est tout à fait normal de se poser des questions. À la PMI, on est là pour vous aider à répondre à ces questions.
Un nouveau numéro de l'écho de l'espace, aujourd'hui consacré au secteur parentalité. Un écho d'espace organisé par l'espace social et culturel du Diwa. Au studio, nous avons Caroline Zenati, bonjour.
Bonjour.
Et Élise Bozonnet.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. Alors avant de continuer tout de suite, nous allons peut-être vous demander vos fonctions au sein de l'ESCDD et de cette organisation autour de la petite enfance. Alors Caroline Zenati.
J'ai en charge avec ma collègue Élise toutes les actions qu'on mène en lien avec la parentalité, quel que soit l'âge des enfants. Et je suis également coordinatrice et accueillante au lieu d'accueil enfants-parents Bleu Hamac, à l'espace social aussi.
Élise ?
Eh bien, moi, je suis en remplacement d'une collègue qui est partie en congé sabbatique pour 7 mois. Donc, je suis animatrice famille avec Caroline. J'ai commencé en mars et ma mission se finit fin septembre.
Vous nous expliquerez un petit peu ce module et puis en quoi ça vous a initié dans cette activité. Cette présentation faite, nous allons suivre quelques mots sur le JPP, donc une initiative qui répondait aussi à un questionnement plutôt général au sein de la population et notamment celle des jeunes. Et pour cela, vous avez eu cette idée de produire une série de vidéoclips. Il y a eu une présentation faite en public à l'espace social et culturel à la salle communautaire le 27 mars et donc nous avons pu découvrir ces modules qui ont été effectués par toute une équipe et donc pour vous Caroline, ça répondait donc à cette nécessité qui était laquelle ?
Pour moi, ce projet-là, il a comme mission, comme objectif de pouvoir faire en sorte que chaque famille qui va tomber sur ces vidéos, chaque parent puisse à un moment ou un autre se sentir concerné. Les vidéos traitent de 15 situations différentes et on fait l'hypothèse que ces situations concernent tout à un moment ou un autre chaque parent au monde, enfin en tout cas en France. Et l'idée c'était que des professionnels de l'enfance, de l'adolescence, jeunesse, parentalité répondent à ces situations depuis leurs fonctions qui leur sont propres et que ça puisse être l'occasion pour les parents de savoir vers qui se tourner en cas de difficulté ou de préoccupation.
Quant à vous, Élise, quelle a été votre intervention sur ces modules JPP ? JPP, je vous le rappelle, ça signifie « j'en peux plus ».
Je peux en parler.
Du coup, moi, je suis arrivée juste après que les capsules soient lancées, donc je m'occupe plus de la diffusion. Voilà, donc sur les réseaux sociaux, je fais attention à ce qu'ils soient bien postés et repostés sur différents réseaux, différents groupes. Et on, avec Caroline, on suit aussi la... On essaye de faire en sorte que les professionnels de santé du territoire puissent avoir accès aux flyers et aux affiches pour que ce soit voilà, diffusé un maximum et qu'un maximum de personnes puissent connaître ce dispositif et s'en emparer si besoin est.
À la suite de ces, de cette présentation JPP de ce 27 mars, j'ai pris mon micro et je suis allé voir quelques personnes, hein, des acteurs locaux ou même de collectivités, pour donner peut-être leur vision sur ces modules. Et nous allons les écouter et nous reviendrons après pour développer.
Mais c'est innovant parce que...
Martine Charmé.
Les capsules s'adressent aux parents de façon bienveillante, en ciblant vraiment une thématique et en répondant très, très clairement et de façon bienveillante. Voilà, ça apporte vraiment des réponses aux parents. Je trouve que c'est vraiment génial. Alors, j'ai bien entendu dans les prises de parole que ça serait intéressant. Il y a des projets en cours, donc oui, j'espère qu'il y aura une suite et que le département pourra accompagner encore une fois.
Je suis Valérie Joubert, je suis vice-présidente à la communauté de communes en charge de l'enfance et la petite enfance. L'idée en fait de cette action, de ce projet, c'est de rendre visible et de faire connaître à tous les parents du territoire du Diwa les personnes ressources qui agissent, qui sont professionnelles à l'accompagnement, à la parentalité et avec des enfants de tous âges. Donc sur ces 45 capsules, nous avons l'ensemble des pros qui soient issus des réseaux relais petite enfance, des écoles primaires, collèges, lycées, assistantes sociales scolaires, infirmières, PMI, CMS, enfin, tous les professionnels vont intervenir et sur des toutes petites capsules de 2 minutes en répondant à des questions et des problématiques de parents. Et non seulement, l'idée vraiment principale, c'est de rassurer les parents en leur expliquant et en leur montrant qu'on a vraiment des personnes ressources sur le territoire, que ça fait réseau et qu'ils ne sont pas seuls et qu'à chaque problématique, on peut avoir une solution pour les accompagner.
Et ben, ce qui a éveillé l'intérêt, moi, je crois vraiment que c'est toujours d'essayer de faire... du mieux qu'on peut,
Caroline Zenat,
afin de faciliter la vie des familles et des parents. Et là, en l'occurrence, c'est de pouvoir nommer des choses que sûrement un grand nombre de parents traversent, mais qui peuvent se sentir peut-être honteux ou illégitimes de vivre ça. Donc c'est un peu de lever des tabous et de pouvoir amener peut-être un regard plus normatif sur les difficultés, de dire bah, en tant que parent, c'est normal de traverser des moments qui sont vraiment très éprouvants. Et une de nos hypothèses, c'est que d'en parler, ça permet de commencer à améliorer la situation. Je suis animatrice famille et je suis coordinatrice du lieu d'accueil enfants-parents, Bleu Hamac. Et là, pendant une durée de quelques mois, je suis coordinatrice de tout le secteur parentalité de l'espace social. Donc c'est pas moi qui ai coordonné tout le projet, mais j'en assure la coordination sur cette période-là.
Je suis Didier Ribes, le directeur de l'école élémentaire Chabestan. Ben, en fait, c'est répondre un petit peu à ce groupe qui s'est créé et qui a réfléchi. Et lorsqu'ils m'ont interpellé, je me suis dit « mais oui, bien sûr ». Il faut qu'on soit capable d'expliquer aux gens ce qu'on fait et comment on prend en charge les enfants et les problématiques des familles et qu'ils aient un peu des repères parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui se passe et comment on peut accueillir les gens. Et en fait, on se rend compte que le travail d'accueil, d'écoute des questions, d'accompagnement des familles, il fait de plus en plus partie de notre quotidien. Et que parfois les gens ne le savent pas, et que de pouvoir le dire et de l'exprimer clairement et simplement, ça va rassurer tout le monde. Et c'est vraiment... Ouais. Bon, je pense par effet de ricochet, oui. Il est à destination des parents, effectivement. Et à l'école, a priori, on est avec des enfants qui ne regardent pas encore trop les réseaux sociaux, même s'il y en a sûrement qui sont dessus. Mais je pense que ce que vont pouvoir voir les parents... ça va être réconfortant pour les enfants. Parce que c'est avoir confiance en eux, en la société qui est autour d'eux et qui est capable d'entendre ce qui se passe et d'éduquer collectivement les enfants qui sont là. Et ça me fait penser à un dicton, je crois, qui vient d'Afrique, qui dit « il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Et là, on est vraiment là-dedans, quoi.
Comment je me suis impliqué ? Déjà, je suis un ancien salarié il y a une dizaine d'années de l'espace social.
Arnaud Micelli.
J'étais collègue avec Aurélie, donc j'avais déjà une sensibilité sur la question de la jeunesse, donc de la parentalité. Et puis ben, quand on m'a demandé de participer à ce projet, d'abord, le projet m'intéresse. Et en plus de refaire le lien avec la question de la jeunesse et de la parentalité, ça me plaisait doublement. C'est le groupe Pilate qui a choisi les personnes qui allaient participer aux vidéos, qui a choisi les questions. Moi, je suis arrivé pour la réalisation du projet. Mais toute la constitution du projet, les questions qui sont choisies, c'est pas moi qui les ai choisies. Moi, je les ai réalisées en vidéo. Non, le tournage, il s'est étalé sur, je sais pas, 2 mois, le temps d'aller chez chaque intervenant, parce que c'était sympa de se retrouver dans l'institution de l'intervenant, et puis de prendre une demi-journée avec l'équipe, de faire les vidéos. Il y a 1 heure de tournage par vidéo pour en conserver 2 à 3 minutes. Parce que c'est le temps de se mettre en confiance, de dialoguer, de trouver le mot juste.
Je suis Xavier Levet. Je suis chargé de mission ruralité, c'est-à-dire que je travaille pour les écoles du Diois, des propositions pédagogiques diverses et variées. Voilà, donc je suis au service des écoles. Alors, à l'époque, j'étais directeur de l'école de Chabestan. Ma réflexion, elle datait depuis plus longtemps. En fait, j'avais déjà été directeur à Luc et à d'autres endroits. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait vraiment cette évolution. Et j'en avais parlé avec notamment un médecin de PMI qui m'avait dit que quand elle avait commencé sa carrière quelques longues années avant, elle rencontrait surtout des difficultés des enfants qui avaient des problèmes de dentaires, qui avaient des problèmes de vaccins, des choses comme ça. Et là, elle me disait, là, je vois de plus en plus de parents démunis. Pendant la pandémie, en fait, on a diffusé un certain nombre de messages au niveau de la direction. Moi, j'avais envoyé un certain nombre de messages à toutes les familles en disant si vous avez des difficultés. On avait aussi travaillé avec les chouettes et différents autres organismes, justement, pour des problèmes de violence familiale et tout ça. Donc, ça m'avait sensibilisé à cette question-là. Et quand on est sorti du confinement, on s'est dit effectivement, il y a des enfants là et des parents qui se sont retrouvés en difficulté, qui étaient très seuls. Et ça a été un peu un déclencheur, effectivement. Alors en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Donc moi, j'étais allé voir Sylvie Scarafia, donc au CMS, comme n'importe quel directeur aurait pu le faire en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il y a un premier groupe qui s'est constitué tout à fait informel, avec des gens qui ne sont plus là d'ailleurs maintenant, qui ont lâché le projet en cours. Et on avait commencé à travailler de façon très artisanale. Et puis, quand on a fait une journée de tournage artisanale, en amateur, on a fait des premières vidéos. Et puis, quand on les a regardées, avec l'espace social qui avait rejoint le projet, on s'est dit, ça va pas, on met les gens en danger. C'est pas facile de prendre la parole comme ça sur les réseaux sociaux. Faut pas que les professionnels soient mis en difficulté. Et puis, voilà. Donc, on est reparti. Il y a eu un moment de flou, puis on est reparti. On s'est dit, allez, on y va, mais de façon plus professionnelle. Donc, il a fallu tout ce premier temps qui était très amateur. Et puis ensuite on s'est professionnalisé, c'est là où on a fait appel à Arnaud, c'est là où l'espace social a été vraiment très très soutenant et Noélie a mis toute son énergie pour, et Aurélie aussi pour mettre toute son énergie pour organiser le projet, parce que comme le disait Sylvie tout à l'heure, on a tous des emplois du temps assez chargés et donc on avait besoin vraiment d'une logistique derrière. Et donc là l'espace social a été vraiment un énorme soutien.
Alors, la manière dont on a été impliqué dans le projet, c'est que...
Aurélie Rabine.
Ce qu'on a pu évoquer là tout à l'heure lors de la présentation, c'est que, en fait, ce projet, il a émergé en 2021 suite au confinement, le Covid, etc. Et les acteurs de terrain que nous sommes, c'est-à-dire les travailleurs sociaux du CMS, le centre social, Xavier Levesque, qui travaille pour l'éducation nationale sur la mission de chargé de ruralité, on avait écho de situations complexes que vivaient les familles. Alors ça pouvait être des difficultés autour du lien à l'école. Ça pouvait être des tensions qui commençaient à se cristalliser avec le Covid, le masque pas masque, ce qu'osaient mettre leurs enfants à l'école ou pas, des parents qui étaient épuisés, on sentait qu'ils pouvaient avoir besoin de répit, des enfants qui n'étaient pas bien dans leur peau, que ce soit des enfants d'âge primaire ou de collège, enfin plus. Et on s'est dit, là, il y a une problématique de terrain qu'on est en train d'observer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et l'enjeu, ça a été comme on a pu le dire, de créer au moins déjà des espaces d'échange et de dialogue pour pouvoir partager nos observations, nos inquiétudes aussi. Et voilà comment on s'est lancé dans le projet. Aussi parce qu'on n'avait pas de réponse à apporter à ce moment-là. En fait, on était soucieux, inquiets pour le territoire et pour les enfants qui vivent et aussi pour les parents qui vivaient des situations délicates. L'idée, c'est d'être créatif. Et tout l'enjeu, c'était, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de soulager des familles et des parents, notamment, soulager des parents pour qu'ils puissent être mieux avec leurs enfants. Et la première chose, c'était de se dire, ça peut être intéressant que les personnes sachent qu'elles ne sont pas seules. Ça supposait, de pouvoir présenter les ressources, les personnes ressources du territoire. Donc l'innovation, elle était à cet endroit-là. Ensuite, il y a eu, on parle de ressources, on les présente, mais de quelle manière ? Et là, on s'est dit, quand même, peut-être des vidéos, ça peut être intéressant, des formats courts, des choses un peu punchy, qui parlent, qui sont fun. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce... Alors, il y a eu ça, et puis... Ça, c'était le côté un peu assez créatif et, on va dire, innovant. Et en parallèle, il y avait tout le sujet de former les équipes éducatives et pédagogiques sur les questions de protection de l'enfance. C'était vraiment... Enfin, l'enjeu, c'était de faire une communauté éducative autour des familles et des enfants.
Il y a un peu une intention de...
Claire Maté.
En tout cas, quelque chose qui a mis en tension... Le lien de confiance des uns des autres, le lien de confiance des parents et des institutions. En tout cas, dans le cadre scolaire, il y avait quelque chose qui s'était un peu tendu. Quand on est dans du scolaire, sur un territoire rural, on est un peu les représentants de l'État. Et du coup, il y avait quelque chose qui était comme l'État. C'est lui qui a imposé, qui a contraint des choses. Du coup, on était en première ligne d'avoir des interlocuteurs pour les gens, les personnes qui vivent sur le territoire du Diwa. Et du coup, ça a mis un peu en tension, en friction, et comme si ça empêchait de se faire confiance et de dire en fait qu'on était tous du même bord pour accueillir les enfants, les jeunes, d'entendre ce qu'il y avait besoin. Donc il y avait ça aussi qui mettait en mouvement de vouloir comment on fait pour être ensemble pour les enfants, pour les jeunes, et de ne pas se polluer par rapport à cette tension de l'État à travers, parce que l'école, ça représente l'État. Et de se dire qu'en fait on peut être tout un village pour élever un enfant dans l'école. Et après, par rapport à la question, est-ce qu'il y avait plus de besoins d'enfants après le confinement, par exemple? Oui, parce que parfois les marmites familiales, quand c'est en vase clos, quand il n'y a plus des sas extérieurs où ça sort, la marmite parfois elle bouillonne et elle est tendue. Donc effectivement, dans certaines situations, la marmite, elle bouillonne plus que quand il n'y a pas d'espace, de temps, où on sort les uns les autres, où on a des activités extérieures, ou quand il y a un truc vase clos, ça fait une cocotte minute qui est un peu tendue. Donc effectivement, ça a mis parfois des gestes, des paroles, des fonctionnements qui ont été désagréables loin et qui fait trace dans la vie de famille.
Je suis Sylvie Scarafia, je suis responsable des centres médico-sociaux de Cré et de Die, au département de la Drôme, à la Direction des Solidarités, dans une sous-direction qui s'appelle la Direction des Territoires de l'Action Médico-Sociale. Alors le centre médico-social de Die est impliqué par quatre personnes, qui sont le médecin de PMI qui a tourné des vidéos, une assistante sociale aussi qui a tourné des vidéos, une péricultrice de la PMI, et puis moi aussi pour certaines questions. Et j'ai pu participer à la création du projet, dans le comité de pilotage, faire le suivi et aujourd'hui communiquer sur le projet. Ça parlait essentiellement de la difficulté des parents, ça parle de ça. Les parents viennent voir l'instituteur en disant « je ne sais plus comment faire, je ne m'en sors plus, j'arrive plus à cadrer mon enfant, à gérer, comment je peux faire, aidez-nous ». On l'a pris comme ça, en tout cas, comme un appel à l'aide, en quelque sorte, et un besoin d'aller vérifier, montrer et communiquer sur les ressources du territoire pour aider les familles. Par un changement de paradigme sur la parentalité, c'est sûr, on se rend compte que de vouloir avoir une idée d'éducation bienveillante, parfois le cadre n'est pas exactement posé à l'endroit où il faut, qu'il y a aussi un accroissement des familles monoparentales. Et quand on est seul pour élever ses enfants, et ben la fonction du tiers que représente l'autre parent ne se fait pas de la même façon. Donc il y a ça, il y a aussi de la précarité parfois, et puis une idée de l'éducation dans le Diwa qui est d'être bienveillant et que l'enfant puisse décider de beaucoup de choses pour son libre arbitre, pour développer son esprit critique, etc. Et parfois avec pas suffisamment de limites. Je pense que là où peut-être c'est le plus pertinent, ça a été dans ce qu'on a dit tout à l'heure, le maillage des partenaires. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup rencontrés pour tourner les vidéos, on a beaucoup échangé sur ces problématiques et ça a donné lieu ensuite à des actions, par exemple autour du sommeil du bébé, autour du langage. Donc oui, effectivement, de mener ce projet, ça a permis de monter des actions entre-temps, qui ne sont pas celles des capsules, pour pouvoir aider les familles sur le secteur. Ce qu'il faut retenir de ce projet et de la réalisation aujourd'hui qu'on voit sur les capsules, c'est qu'on ne donne pas de conseils. On ne donne pas de conseils, il n'y a pas de recette de cuisine. Chacun est parent comme il le peut, avec qui il est, l'histoire qu'il a. Et on essaye plutôt d'accompagner, d'écouter et de voir quelles ressources a le parent pour pouvoir l'accompagner au mieux, pour résoudre par lui-même ses problèmes si c'est possible, ou avec de l'aide s'il y en a besoin.
Je suis Margot Loire, je suis inspectrice de l'éducation nationale. J'ai trouvé que c'était une proposition extrêmement intéressante qui s'articulait complètement avec le travail réalisé dans les écoles autour de l'accueil des familles, de leurs difficultés et de la parole des familles. Ça permet aussi de construire un tissu local très maillé et aux acteurs de se connaître. Donc c'est un projet extrêmement intéressant. C'est une proposition extrêmement innovante, à la fois par le format qu'elle a choisi de mettre en œuvre dans le produit fini, et aussi par le travail en amont partenarial et développé au sein des différentes structures. Et comme on peut le dire, différents acteurs, c'était un peu hors champ au départ ou hors cadre. Il n'y avait pas de commande spécifique et je trouve que le fait que ça émerge du terrain, c'est aussi intéressant. C'est un projet qui intéresse d'autres territoires, mais je pense que ça n'est pas anodin qu'il soit né dans le Diwa. Le maillage territorial est déjà très fort, les acteurs se connaissent très bien, et ça a permis l'émergence de ce projet. Je pense que c'est un outil qui peut durer, il faut savoir l'utiliser et continuer à le valoriser le mieux possible pour qu'il dure.
Nadia Akara, je suis assistante socio-éducative au centre médico-social de Die.
Ça a éveillé en vous un questionnement de cette situation, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là?
Oui, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de parents qui avaient des difficultés éducatives et qui étaient au départ des petites difficultés que tout parent peut rencontrer et qui, au final, ont grossi parce qu'on est resté seul avec ces difficultés-là. Et quand on est seul, on n'est pas très efficace. Du coup, et on s'est posé la question aussi de comment aider les parents à repérer les endroits où ils pourraient trouver une écoute, un soutien à partir de leurs difficultés. Et surtout, de se dire que cette difficulté-là, pas une difficulté qui est hors norme ou extraordinaire, mais juste une difficulté de parents. Et essayer un peu de banaliser, mais de normaliser la situation.
Pour vous, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour établir cet outil ?
Difficulté, je dirais pas, mais en tout cas, on est parti du constat qu'il y avait énormément de professionnels. Il y a des professionnels, il y a du réseau, mais qu'on n'était pas suffisamment peut-être repérés, qu'on n'était peut-être pas très bon dans la communication. Et comment pouvoir proposer un outil qui soit donné sur l'espace public et qui soit facile à trouver. Et voilà, à partir de là, les choses se sont faites assez, je ne vais pas dire facilement, mais en tout cas, on savait où on allait. Voilà.
Quand on est parent, il peut y avoir aussi un enjeu de quand on se retrouve en difficulté. Ben, c'est un peu un moment de vulnérabilité, on n'est pas sur son meilleur jour. Il y a une telle proximité en fait dans le milieu du livre qui peut faire qu'on peut être se renfermer, s'isoler. Il y a un peu l'enjeu d'accueillir les parents et de dire ben, en fait, il n'y a pas de parents, enfin, vous êtes comme vous êtes et il n'y a pas de bon mauvais. Il y a quelque chose de vraiment important de permettre aux parents, en tout cas, de dire ben, c'est normal ce que vous vivez, ça arrive, c'est commun. Et en même temps, ce qu'on partage ici, ça reste ici. Ce qu'on partage dans mon bureau, c'est entre quatre murs, je suis tenue au secret professionnel, c'est la loi qui le dit, les parents peuvent porter plainte si c'est redit ailleurs. Ça se dit à un moment donné, à cet endroit-là, dans mon bureau, entre quatre murs, c'est pas sur la place, au marché, c'est pas dans la rue. Moi, quand un parent, je lui dis très clairement que quand on parle de sa situation et dans le cadre avec de son enfant, par rapport à sa situation familiale, ça s'aborde uniquement sur mes temps d'horaire de travail, sur l'espace du scolaire dans mon bureau. Ça situe dans l'espace et dans le temps un cadre sécurisant. Le parent, il a besoin de savoir qu'il y a une parole protégée qui l'appartient et est neutre. Être parent, c'est aussi parfois se sentir en défiance ou de l'appréhension d'être jugé par l'école. Et ben, parfois, je suis un peu la personne qui fait le trait d'union entre l'extérieur et puis la vie au collège. Je suis un peu la personne qui est aux côtés des parents.
Voilà, nous venons d'écouter cette succession de témoignages et de propos. Votre première réaction, Caroline, sur ce constat ?
Il y a une chose qui me vient en entendant là toutes les différentes personnes qui ont pu s'exprimer et qui ont participé à ce projet-là. C'est un des effets qu'on n'avait pas mesuré qui concerne justement le maillage et le réseau dont on a entendu parler. C'est qu'en fait, ces capsules sont aussi un outil d'interconnaissance entre professionnels. Et à cette soirée-là d'inauguration et de lancement des capsules, il y a une professionnelle qui est nouvellement arrivée sur le territoire et qui dit « Mais moi, ça m'a vraiment aidée à savoir qui allaient être les partenaires, de pouvoir regarder toutes les vidéos et de savoir qui fait quoi et qui est qui. » Donc il y avait aussi un effet supplémentaire côté réseau et interconnaissance des professionnels du territoire.
Voilà, il y a eu une mise en évidence de ce maillage à produire hein, sur le territoire pour peut-être mieux trouver les interlocuteurs à l'adresse des parents. Donc ces clips répondent aussi, qui sont produits par les professionnels de l'enfance et de l'adolescence, aux questions que peuvent avoir les parents. Ces clips, il y a peut-être eu un an de mise en forme, de production. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est produit entre 2021 et l'avènement de ces clips ? Est-ce que pour vous, c'était évident qu'il fallait les produire pour peut-être mieux répondre ?
Ce qui s'est passé entre 2021 et début 2025, ça a été beaucoup de travail du groupe pilote avec une tentative d'élaborer ces 15 situations qui seraient le commun à tous les parents. Donc ça a été un travail qui a été très intéressant et qui a été fait d'aller-retour aussi avec d'autres professionnels qui ne font pas partie de ce groupe pilote mais qui ont été filmés. Donc le gros du travail, il a été vraiment autour de la construction de l'outil qui allait après pouvoir se construire pour être adressé aux familles. Et en effet, ça a déjà là été l'occasion d'une meilleure interconnaissance. Moi, je me souviens que j'avais été en entretien avec Christelle Arnorib, l'animatrice du Relais Petite Enfance, et puis Lorraine Delot, qui était infirmière à la PMI. Et on a échangé pendant plusieurs heures autour des situations qu'on partage et on s'était rendu compte qu'on ne fait pas le même travail. Moi, j'étais là en tant qu'accueillante du lieu d'accueil enfants-parents. On s'est rendu compte qu'on ne fait pas le même travail, mais qu'on travaille avec le même public et qu'on était confrontés aux mêmes situations et qu'on avait nos réponses spécifiques. Et c'était vraiment passionnant de pouvoir avoir la chance d'aller autant dans le détail et dans la finesse de ce qui constitue nos travaux.
Le groupe pilote, on peut préciser ?
Et c'est une grande partie des personnes que vous avez pu entendre. Il y avait donc Noélie Burelier, référente famille à l'espace social, qui était coordinatrice. Aurélie Rabine, qui est coordinatrice de l'espace jeune à l'espace social. Sylvie Scarafia, qui s'est présentée aussi pour le CMS. Xavier Levé, chargé de mission ruralité pour l'éducation nationale, et Claire Maté, assistante sociale à la cité scolaire.
Élise Bozonnet, vous donc êtes chargée de communiquer ou de faire connaître ces JPP auprès du public. Pour cela, comment procédez-vous ?
Oui, c'est ça. Alors du coup, pour tout ce qui est version papier, il y a un questionnaire qui a été diffusé via des mails, c'est très basique, et ensuite on a demandé un retour du coup à tous les partenaires de ce qu'ils ou elles pouvaient avoir besoin en matière de flyers ou d'affiches, parce qu'en fait toutes les situations ont été sorties sous forme d'affiches, et voilà, donc les professionnels de santé du coup peuvent les afficher dans leur salle d'attente ou sur leur lieu d'accueil. Et ensuite, ça peut éventuellement engager la conversation auprès des familles. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est Arnaud Micelli, du coup, qui se charge de les poster sur certains réseaux. Et moi, soit je les reposte sur différents groupes ou alors sur nos réseaux internes. Là, les dernières vidéos qui ont été diffusées, on voit que ça marche bien parce qu'il y a environ 100 jusqu'à 700 vidéos qui sont vues et donc partagées, donc c'est un beau retour.
Des commentaires d'ailleurs autour de ces clips ?
Alors des commentaires, pas vraiment, mais on voit qu'il y a des parents qui sont... Enfin, on a eu des retours déjà de parents qui se sont adressés aux professionnels qu'ils ont vus et soit qui ont échangé ou demandé des rendez-vous personnalisés, donc c'est...
Je reviens sur cette communication donc, auprès des professionnels sur le territoire, mais il y a aussi peut-être les collectivités, les villages qui sont au nombre d'une cinquantaine hein, dans le Diwa. Est-ce qu'il y a eu aussi cette campagne auprès d'eux ?
Oui, on communique aussi auprès des mairies. Je ne sais pas, peut-être que tu vas en parler. C'est peut-être plus pour faire connaître le dispositif et indiquer les ressources qu'il y a disponibles sur le territoire, plus que pour les afficher dans les mairies, je ne sais pas...
Selon les mairies, on a eu différents retours. Il y en a qui ont fait suivre l'information par mail à tous les habitants de leur commune. Parce que l'idée, c'est qu'il y a une vidéo qui sort chaque semaine. Et une des manières de rester informé, c'est de s'abonner aux réseaux sociaux. Et donc, voilà, certaines mairies ont eu la possibilité de donner cette information-là par mail à tous les habitants de leur commune. Il y a aussi le journal du Diwa qui avait fait un article. Mmh. Il y a la communauté des communes qui va préparer aussi un article pour sa prochaine parution. Donc les collectivités s'emparent de ce projet et de sa diffusion.
Et particulièrement aussi les espaces de vie sociale également.
Oui, c'est vrai qu'on est en lien aussi avec les EVS de Luc, de la Vallée de Quin. De Saint-Nazaire.
L'Ustacroix-Haute aussi.
Ils en avaient demandé aussi des affiches, oui. En fait, on a essayé vraiment d'avoir un listing de toutes les personnes qui pouvaient être amenées à rencontrer des familles. Donc, en effet, les collectivités, tout ce qui est en lien avec la santé, tout ce qui est en lien avec l'éducation, avec le loisir.
Oui, je pensais, il y a la CAF, les associations de parents d'élèves, vraiment...
L'idée, c'était de balayer large pour que le plus de familles possible tombent à un moment ou un autre sur les vidéos.
Alors, il y a cette adresse faite aux parents hein, pour ces clips, mais elle concerne aussi les enfants ou les ados d'ailleurs. Est-ce qu'eux-mêmes ont opéré des retours auprès de vous ?
Moi, j'avais entendu dire que les vidéos, elles sont très diffusées sur TikTok. Alors, malheureusement, moi, je ne suis vraiment pas la meilleure personne pour parler des réseaux sociaux. Mais ce que j'avais entendu, c'est que TikTok, c'est un réseau qui est utilisé vraiment par les jeunes et qu'en fait, ça a apparemment été vu par de nombreux jeunes qui, après, ont pu, eux, en faire le relais à leurs parents. Mais de là à dire combien de personnes et d'avoir des chiffres exacts, ça, je ne suis pas capable. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des retours, notamment de la part des collègues qui travaillent plus en lien avec le secteur jeune et avec la cité scolaire.
Ça, c'est une approche donc qui répond à ces difficultés hein, pour beaucoup. J'en peux plus, ça c'est la question, ou peut-être l'interpellation, et je peux en parler. Alors, qui peut parler de ça ?
Ben, les parents, les familles, les tuteurs, les responsables légaux, tous ceux qui se reconnaissent comme tels. Ça répond vraiment à tout le monde, je pense.
Vous-même, Élise, vous êtes dans une catégorie jeune. Est-ce que ça vous a touché, vous, directement même ?
Bah, moi, ça m'intéresse, mais c'est plutôt par un aspect professionnel, je dirais, parce que vu que je ne suis pas moi-même parent, ce n'est pas des questions qui me touchent, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il y a une pluralité de réponses possibles pour une même question. Et comme tu disais tout à l'heure, le maillage très important de tous les professionnels qui sont sur le territoire. C'est essentiel pour se rencontrer et pour voir les possibilités.
Oui. Je rebondis sur ce que tu dis parce que je trouve un des aspects vraiment touchants de ce projet-là, c'est qu'en effet, chaque professionnel parle depuis l'endroit qui le concerne, qui la concerne, avec les spécificités de son poste. Et pour autant, moi, j'ai trouvé qu'il y avait certaines situations où il y avait beaucoup de communs en termes de posture. Et voilà, je me suis amusée à des moments à regarder à la suite plusieurs professionnels parler de la même situation. Et je me suis dit, waouh, on a de la chance parce qu'en fait, dans la notion d'accueil, d'écoute des familles, de pas voilà, dans le montage, on entendait Sylvie Scarafia qui disait on donne pas de conseils. Bon bah ça c'est une posture qui est quand même pas forcément commune. Et là vraiment moi je trouve qu'on sentait que chaque professionnel est vraiment à un endroit qualitatif dans la relation qu'il a aux parents et ça je pense qu'on peut s'en féliciter et s'en réjouir pour notre territoire.
45 clips proposés au visionnage sur Internet. Est-ce que, ma question, y aura-t-il une suite de production ?
Eh bien, c'est en discussion. Il y avait l'idée de travailler autour d'un parentomètre qui serait un outil pour évaluer s'il y a violence ou pas intrafamiliale et puis un peu quel degré de violence. En tout cas, voilà, c'est en cours d'échange. Pour l'instant, l'espace social, en tout cas, ne va pas forcément se relancer dans la coordination d'un projet aussi conséquent, parce que ça a été vraiment une grosse mobilisation d'une des salariées. Mais voilà, l'espace social n'était qu'une structure parmi plusieurs, donc peut-être que d'autres prendraient la coordination d'un autre projet et puis que l'espace social serait présent. Mais ça, on ne sait pas encore et on verra courant automne prochain.
Élise, pour vous, c'est une belle expérience aussi pour votre formation ?
Ah oui, oui. Oui, c'est très intéressant.
En quoi ?
Ben, c'est découvrir un aspect de... Moi, en fait, je suis animatrice jeunesse aussi, en même temps qu'animatrice à parentalité. Et du coup, c'est... Je suis familière des réseaux sociaux, mais pas de diffuser un gros projet comme ça. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer les personnes qui ont participé à ce projet. Et c'était chouette.
Nous arrivons à la deuxième partie de cette émission avec l'actualité de l'ESCDD et quelques infos à connaître. Donc, Élise ou Caroline. Oui.
Alors, le prochain rendez-vous qui est proposé, c'est un rendez-vous entre parents autour des questions de sommeil. On propose de venir regarder un film ensemble qui s'appelle « Il était une fois le sommeil » et d'avoir un temps d'échange entre parents et avec les professionnels qui seront présents ce jour-là. Ça sera le samedi 28 juin de 10h à midi à la salle communautaire de l'ESCDD. C'est gratuit et sans inscription. C'est surtout autour de la petite enfance jusqu'à 6 ans pour le public cible. Et puis c'est l'occasion de vous dire que depuis maintenant 2 ans, il y a un groupe de professionnels qui, de la petite enfance et de la parentalité qui se rassemblent pour réfléchir à cette problématique du sommeil. Donc là, il y a une proposition là et d'autres viendront l'année prochaine. On est tout un collectif à s'engager là pour au moins 3 ans autour de cette thématique-là.
Du coup, la deuxième info dont je peux vous parler, c'est la sortie famille au lac du Rio qui sera le samedi 19 juillet. Donc c'est un rendez-vous en famille où tout le monde est bienvenu. En famille, il peut venir vraiment de bébé jusqu'à plus âgé. C'est une journée ouverte à tous et toutes. C'est sur inscription. Avant le 11 juillet, et il faut être adhérent de l'ESCDD, mais sinon le goûter et le transport sera assuré par Caroline et moi, ainsi qu'un ou une parent. Voilà.
Et dernière petite info estivale, le lieu d'accueil Bleu Hamac sera bien ouvert en juillet. On vous accueillera à partir du vendredi 4 juillet dans la salle mutualisée de la crèche, place du Mazel. Et on sera ouvert tous les lundis de 9h à midi, tous les vendredis de 15h30 à 18h30 jusqu'au 25 juillet. Le dernier accueil aura lieu le vendredi 25 juillet. Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un adulte familier.
On peut aussi parler en avant-première exclue mondiale de la fête en famille qui sera à Lucandiwa le 13 septembre avec, en partenariat avec la Corderie et le 101.7.
Caroline Zenati et Élise Bozonnet, je vous remercie toutes deux d'avoir participé à cette nouvelle émission donc, de l'Écho de l'espace.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.